Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce dimanche, il est question de la vertu essentielle de nos âmes, la vertu d'humilité. Le mot « humilité », dans son étymologie, vient du mot « terre ». C'est avoir le sens des choses de la terre, le sens des réalités d'ici-bas, être bien enraciné ici-bas, sans pour autant que cette âme qui s'enracine ici-bas sur la terre n'oublie les réalités du ciel. Notre peuple du pays Toy, peuple de bergers, illustre cette vertu essentielle. Le berger qui, dans ses estives, garde les troupeaux, a bien les pieds enracinés sur terre, attentif à son troupeau et aux différentes menaces qui pourraient lui nuire. Mais le berger, parcourant la splendeur de nos monts, n'oublie pas d'ouvrir son âme dans cette action de grâce, parce que devant le splendide et le sublime de la nature, de la création, il n'oublie pas de chanter la gloire du Créateur. La vertu d'humilité, c'est donc avoir les pieds sur terre, mais l'âme grande ouverte aux réalités d'en haut. C'est ainsi que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous provenons de la bonté de Dieu, de cette conjugaison de son amour et du bien qu'il nous veut. Cette bonté est manifeste dès le jardin, ce paradis terrestre où le bon Dieu nous a placés. Il peut être étonnant de constater que le bon Dieu, qui crée rien de moins que l'univers pour nous, hommes et femmes, qu'il créa à son image et à sa ressemblance, plaça nos premiers parents non pas dans l'immensité du monde, mais dans un jardin clos de remparts, nous disent les saintes Écritures. C'est parce que le bon Dieu ne veut pas que nous nous perdions dans l'immensité du monde. Le bon Dieu veut nous garder sous sa protection bienveillante. C'est alors que le bon Dieu, dans ce jardin, alors que l'homme et la femme, étrangers au péché, n'accomplissent que le bien, ne vivent que de ce bien provenant de Dieu, en deux arbres bien plus grands placés au centre de ce jardin qui figurent la loi. Voilà pour nous, parents, eh bien, une règle éducative importante. Les enfants ont besoin d'un cadre. Les enfants ont besoin d'une loi, et ce qui vaut pour une famille vaut à un autre échelon pour l'État, la juste autorité, et là, pour garantir le bien commun. Avant le péché, l'arbre du bien, l'arbre de vie, ne sont pas vus comme des tentations où Dieu narguerait par sa loi. Vous êtes des créatures, vous ne connaissez que le bien et pas le mal, vous êtes étrangers à l'arbre de vie, avec le péché. C'est le regard de Ève, puis d'Adam, qui va changer, parce que le tentateur va comme changer leur regard. Ce péché des origines vient alors marquer en notre humanité une blessure, et une blessure profonde, que le bon Dieu a voulu nous révéler dans ce récit allégorique, symbolique, de la Genèse. Après le péché, Ève regarde avec convoitise l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où le démon voulait en venir. Il ne connaissait et ne pratiquait que le bien. C'est cette humanité restaurée dans la conception immaculée de la Vierge Marie qui fait d'elle la nouvelle Ève, la mère des vivants. Elle retrouve cet idéal créateur et va pouvoir alors mettre au monde le nouvel Adam. Voilà qu'elle regarde avec désir cet arbre, parce que si elle connaît et pratique le bien, elle a envie de découvrir ce que le mal peut opérer. En cela, elle désobéit à Dieu, elle se dérobe de la garde de Dieu. Pour éviter à Ève de continuer son péché, voilà que Dieu va chasser Adam et Ève de ce jardin, les sortir de la loi originelle pour lesquelles ils n'avaient pas besoin d'apprendre par cœur ni un catéchisme pour avoir la foi, ni un code civil ou un code de la route pour se déplacer et vivre ici-bas. Tout cela leur était donné dans cette innocence première parce que ils se recevaient de Dieu. Ils savaient que le bon Dieu les plaçait à la tête du genre humain, du règne animal, de cette création qui leur est donnée et confiée, mais qu'ils n'en sont pas l'auteur, qu'ils sont les dépositaires de ce don de la création de Dieu. Voilà que Dieu nous chasse de ce paradis terrestre, et alors, en conséquence, la mort comme punition entre dans le monde. Nous ne pouvons plus accéder à l'arbre de vie jusqu'à ce que l'arbre de la croix devienne pour nous l'arbre de vie. Le Seigneur Jésus l'affirme dans cet évangile. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude que nous sommes. Voilà comment cet arbre du péché devient pour nous l'arbre de vie par la croix du Seigneur, par laquelle nous passons de la mort à la vie du monde à venir. Le péché est donc un péché d'orgueil. Nous avons voulu, nous recevoir de nous-mêmes, faire comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'avait pas donné sa loi, comme si Dieu ne nous protégeait pas, comme si nous pouvions nous passer de ce juste équilibre du bien commun. Adam et Ève, par leur péché et nous à leur suite, refusons de nous recevoir comme fils et filles de Dieu. Nous refusons cette image et cette ressemblance de Dieu. Nous sortons de la loi parce que nous voulons être nos propres maîtres. Et nous pouvons entendre dans la création cette phrase d'un de nos illustres philosophes français, Descartes, qui au sujet de la nature, de la création, disait « Nous serons maîtres et possesseurs de la nature ». Et nous voyons aujourd'hui jusqu'où ce péché a conduit l'humanité, le genre humain. Ce juste équilibre réside dans la vertu d'humilité. Avoir le sens de la terre, des choses de ce monde, sans perdre de vue les réalités d'en haut. Car l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ne sont dignes que lorsqu'ils sont ouverts à la vie de la grâce. Cette grâce que le Seigneur va restaurer avec pédagogie, donnant dans l'histoire sainte le rappel de la loi naturelle dans les 10 commandements. Donnant dans le rappel de la loi et des prophètes ce sursaut intérieur, il y a le ciel. Et si la justice ici-bas sur la terre ne peut véritablement accomplir sa finalité de justice, il y a la justice de Dieu auquel rien ne pourra échapper. Car le Seigneur ne regarde pas seulement les actes comme un avocat, un juge. Il sait également sonder à l'intérieur les intentions du cœur. D'où la nécessité de suivre notre Seigneur Jésus le Christ au plus près dans la prière qui nous unit à lui. Dans cette amitié retrouvée, nos premiers parents avaient cette foi naturelle, native. Voilà que le bon Dieu descendait dans le jardin. Il aimait être ami d'Adam et Ève. Et lorsqu'ils se sont perdus, comme un juste père ou mère de famille, voilà qu'il est puni et met en place une pédagogie pour les ramener à bon port. C'est ce que fera notre Seigneur Jésus le Christ dans son incarnation et en offrant sa vie sur le bois de la croix. Pour nous faire comprendre cette réalité, le Seigneur se présente à nous. « Venez à moi, dit-il, car je suis humble de cœur. » Cette humilité du cœur est également ce qui a plu en Notre-Dame. Elle l'affirme dans le Magnificat. Pourquoi Notre-Dame a été choisie entre toutes les femmes? Parce qu'il a posé les yeux sur l'humilité, la pauvreté de sa servante. S'élève renouvelée, celle qui se reçoit de Dieu, qui sait que tout ce qu'elle est, ses dons, ses charismes, elle le doit à un don du bon Dieu. Et Notre-Dame sait que ses dons ne sont pas là pour son orgueil et sa gloriole personnelle. Elle sait que tous ses dons, elle a à les mettre au service du bien commun. Voilà que la nouvelle Ève met au monde le nouvel Adam et que par elle, la femme nouvelle, la mère des vivants, l'ensemble du salut peut commencer par elle. Voyez la dignité de l'humanité. Le bon Dieu n'a pas voulu nous sauver indépendamment de nous. Il a voulu devenir homme pour que nous, hommes, puissions le rejoindre, lui, Dieu, là-haut, dans la patrie. C'est bien toute la problématique de notre évangile. Le Seigneur Jésus a manifesté que dans son humanité se tient la divinité, que l'humanité, en son âme très sainte, est l'instrument de sa divinité. Le Seigneur, dans son humanité, touche l'aveugle, il recouvre la vue. Le Seigneur le déclare et l'affirme, le paralysé retrouve la mobilité. L'autorité de Dieu est telle, il suffit de dire, et le démon s'éloigne. Eh bien, voilà que, à cette révélation de Dieu comme le Dieu Messie, le Seigneur Jésus ne veut pas oublier qu'en raison du péché des origines, il va être question de l'humilité dans la passion, bien plus que de l'humilité, de l'humiliation. Nous entendons la filiation des deux mots. Pour restaurer l'humilité, voilà que le Seigneur va être humilié. Voilà comment il s'offre en rançon pour nous pécheurs. Eh bien, voilà qu'il est attaché à la colonne et sévèrement flagellé. Voilà qu'il est l'agneau muet conduit à l'abattoir qui n'ouvre pas la bouche pour toutes les fois où pour justifier notre règne, notre situation de péché, nous ne l'ouvrons que trop. Voilà l'agneau de Dieu qui offre sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. L'humilité du Seigneur est telle qu'il a accepté l'humiliation de la mort sur le bois de la croix. Le Seigneur vient d'annoncer tout cela en aparté à ses apôtres. À trois reprises, il leur annonce, parce que les apôtres, encouragés par les signes miraculeux du Seigneur, reconnaissant qu'ils cheminent à côté du Messie, finissent par avoir la grosse tête. Le Seigneur leur a dit, attention, je vais devoir beaucoup souffrir. Je vais être humilié aux yeux des grands prêtres, des spécialistes de la loi que sont les scribes et les pharisiens. Je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Le Seigneur l'a répété à trois reprises, parce que c'est dur à entendre. On avait retenu toutes les prophéties du Messie. Il devrait se faire reconnaître par des signes éclatants. Mais un Messie humilié, tel que l'avait entrevu Isaïe, celui de l'agneau muet conduit à l'abattoir n'ouvrant pas la bouche, ça on l'avait mis de côté. Comment le Messie peut-il être victorieux s'il est humilié? Comment le Messie pourrait-il être victorieux s'il est mis à mort et réduit au silence comme les prophètes? Non, ça c'est pas possible. Pierre d'ailleurs a pris le Seigneur à part, lui faisant de vifs reproches. Et le Seigneur, c'est la phrase que le père Hamel a répondu à ses assassins, à ses bourreaux, lui a bien dit, arrière, loin de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes façonnés par l'orgueil du péché. La pensée de Dieu, c'est que pour restaurer l'humilité, il fallait passer par l'humiliation. C'est un dicton de la vie chrétienne. Il faut beaucoup d'humiliation pour accueillir un tant soit peu d'humilité. Eh bien voilà que, malgré cette annonce du Seigneur, Jacques et Jean, de bons amis du Seigneur, apôtres choisis, établis pour être les intendants des mystères d'en haut, se disent « c'est le Seigneur Messie, il va régner, son règne n'aura pas de fin, il faudrait quand même que l'on soit l'un à sa droite, l'autre à sa gauche pour participer à son règne, à son pouvoir, il faudrait donc que nous soyons bien placés ». Voilà encore le règne de l'orgueil. Le bon Dieu n'agit pas pour nous sauver selon nos manières. C'est pourquoi nous devons, comme nous le disons dans le Notre Père, sanctifier le nom de Dieu. Enlever de ce nom très saint de Dieu tous nos petits calculs humains. Laissez Dieu être le sauveur. Laissez Dieu nous sauver tel qu'il entend, dans cette humilité qui se reçoit de Dieu, dans cet abandon auprès du bon Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus leur dit bien, qu'il n'est pas venu ici-bas tout d'abord pour être servi. Il est venu pour servir. Et comment va-t-il servir ? Par son humiliation extrême, son abaissement immense dans le mystère de la mort. Je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir, pour donner ma vie en rançon pour la multitude. On est loin du calcul, du pouvoir, de l'orgueil, de la première place. Le Seigneur le dit bien. Vous voulez être le premier, il faudra être le dernier. Vous voulez être le premier, vous voulez gouverner, il faudra être le serviteur, l'esclave de tous. C'est ce signe que le Seigneur donne au soir du Jeudi Saint. Ce n'est pas trop notre culture, mais puisque l'on marche avec des sandales sur les chemins de Palestine et de Terre Sainte, et que l'on ne mange pas assis mais allongé sur des banquettes, et que les pieds d'un des convives finissent par être à côté de notre tête avant de prendre le repas, il faut se laver les pieds. C'est le travail, l'humble tâche du dernier des serviteurs, de l'esclave même. Et le Seigneur prend un linge et se met à faire le travail le plus humble du serviteur, laver les pieds des convives. Et bien voilà que le Seigneur, quand Pierre lui dit « Mais non, Seigneur, pas vous, je vais vous laver les pieds », ou alors quand Pierre se fait laver les pieds, mais pas seulement les pieds, Seigneur, mais aussi la tête, le Seigneur donne là l'exemple du plus grand amour. La grandeur de Dieu se dit dans l'abaissement. La grandeur de Dieu s'est dit dans l'abaissement de l'incarnation qui finit jusqu'à la mort. Est-ce que l'on comprend ce que veut dire pour Dieu être éternel, être le créateur de tout et s'abaisser même en dessous des anges, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, jusqu'à devenir un homme et se faire mortel. Voilà le grand abaissement de Dieu. Nous avons aussi, par toute notre vie, à imiter le Seigneur dans ces petits abaissements du quotidien. C'est ainsi que le Seigneur, qui est le bon vigneron, émonde de la vigne. Il doit nous tailler, et cela n'est pas toujours facile, et cela n'est pas toujours agréable. Mais c'est comme ça que nous pourrons porter davantage de fruits, diminuer dans notre orgueil, pour que le Christ en nous grandisse. C'est ce qu'affirme Jean le Baptiste. Eh bien, demandons cette grâce à Notre-Dame, d'arrêter de nous prendre la grosse tête pour notre carrière, pour je ne sais quel dessein que Dieu aurait pour nous. Mais acceptons de nous recevoir dans cette humilité. Nous sommes ici-bas sur la terre, le bon Dieu nous a donné des dons. Bien souvent, nos défauts sont l'envers du décor de ces dons. Nous avons à mettre tout cela non pas à notre profit, mais au profit du bien commun. Voilà comment le bon Dieu, dans cet abaissement intérieur, peut faire alors sa demeure en nous et accomplir de grandes choses, voire des merveilles. C'est là le secret des saints, le secret de la bienheureuse Vierge Marie. Elle s'est dépouillée de tout parce qu'elle se reçoit de Dieu, et voilà que le Seigneur a fait en elle des merveilles. Que Notre-Dame du Rosaire nous aide à nous émonder intérieurement, à laisser le Seigneur établir sa demeure dans nos crèches intérieures. Alors avec la pauvreté des bergers, nous l'adorons. Avec les richesses qu'il nous a données avec les rois mages, nous lui offrons tout cela pour que ce ne soit plus nous qui vivions, mais le Christ qui vive en nous. Ainsi soit-il.